Notre déclaration de la foi. Combien de vous, vous aimez la Bible? Donc, je vous invite à prendre votre Bible entre vos mains. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez sûrement reçu une feuille à la porte. Sinon, levez votre main, un de nos placiers va vous donner une feuille. Mais presque tous les versets qu'on va lire et étudier sont là-dessus. Mais on va prendre cela dans nos mains. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé, transformé de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 3. On va lire un passage aujourd'hui. J'ai à cœur un message encourageant ce matin. Une exhortation, si vous voulez, à faire tout ce que le Seigneur nous a appelé faire, à devenir tout ce que le Seigneur veut qu'on soit, et à recevoir tout ce que le Seigneur veut qu'on possède, comme on vient de déclarer. Et en Éphésiens chapitre 3, nous avons une prière qui est une prière inspirée de Dieu. C'est une prière inspirée par l'Esprit Saint que l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Mais c'est une prière qui s'applique pas juste à eux, mais c'est une prière qui s'applique à nous aujourd'hui. C'est une prière efficace parce qu'on sait, Dieu nous a révélé dans sa parole que en 1 Jean 5, 14 et 15, que voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons les choses qu'on a demandées. Donc, c'est-à-dire que quand on prie les prières qu'on trouve en Éphésiens, ce sont les prières selon la volonté de Dieu, parce que c'est selon la parole de Dieu. La parole nous révèle la volonté de Dieu. Et ici, en Éphésiens, chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul prie une prière qu'on peut prier pour soi-même et qu'on peut prier pour notre Église. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Est-ce que vous avez pris le temps de méditer et de penser à la richesse de sa gloire? Jusqu'à quel point Dieu est-il glorieux? Jusqu'à quel point Dieu est-ce qu'il rayonne de gloire? Vous savez que Dieu est lumière. Et jusqu'à un point où tous les gens qui ont vu, même les visions de Jésus-Christ quand, après la résurrection, il y a des personnes comme Jean, l'apôtre, qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité et il est tombé comme mort. Pourquoi? Parce qu'il rayonnait tellement de la gloire de Dieu. Quand Saul de Tarse était sur la route de Damas, il y avait une lumière du ciel qui était tellement brillante que ça aveuglait l'apôtre Paul, qui n'était pas apôtre à l'époque. Pendant 3 jours, il ne pouvait plus voir. Laisse-moi te dire que Dieu est grand, Dieu est puissant. On a juste à regarder les étoiles. On a juste à voir la lune. On a juste à voir les planètes que Dieu a placé dans l'espace. Et on voit jusqu'à quel point notre Dieu est grand. Incroyable de penser à sa grandeur. Incroyable de penser à la richesse de sa gloire. Mais ici, l'apôtre Paul dit, et on vient de le lire, on va le lire encore verset 16, qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Là, on parle de quelque chose de fort, quelque chose de puissant, d'être puissamment fortifié. Imaginez la puissance que ça a pris pour créer l'univers. Imaginez la richesse de la gloire qui était manifestée lors de la création du monde. Et ça, c'est rien comparé à la puissance qui était manifestée lors de la résurrection de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que nous sommes ressuscités en lui et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Donc là, on voit que l'apôtre Paul, il prie pour que l'Église selon la richesse de sa gloire, soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé, tout le monde dit enraciné et fondé, dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Dieu veut que vous soyez remplis, et pas juste un petit peu, mais Dieu veut que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! On a fait du progrès. Et je suis content d'avoir fait du progrès dans le Seigneur Jésus. Mais on n'a rien vu à date. Dieu veut qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de son amour. La plénitude de sa sagesse. La plénitude de sa puissance. La plénitude de tout ce qu'il nous a confié. La plénitude dans l'accomplissement de son plan et ses projets pour nous ici sur la terre. Dieu veut qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude. Mais qu'est-ce qui est triste? C'est la réalité que la plupart des chrétiens vont vivre et mourir sans avoir gratté la surface de qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qui ils sont en Jésus-Christ. Et ils vont arriver au ciel, et ils vont voir la gloire de Dieu, et ils vont voir qu'est-ce que Dieu a planifié pour eux, ils vont voir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour eux en avance, et ils vont voir toutes les choses qu'ils ont manquées ici sur la terre. Les choses qu'ils ont manquées dans le sens que on n'aurait pas accompli la plénitude de qu'est-ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Ça, c'est une chose qui est triste, mais je suis convaincu que c'est une réalité. La plupart des personnes, ils vont entrer dans le royaume de Dieu. Ils vont ouvrir la porte, mais la porte est déjà ouverte dans le fond. Jésus est la porte, vous êtes d'accord? Ils vont entrer en Jésus-Christ. Ils vont entrer à peine dans le royaume de Dieu. Et ils vont rester là. Et pendant toutes les années de leur vie chrétienne ici sur la terre, ils vont souffrir, ils vont être frustrés, ils vont être déçus, ils vont avoir des problèmes après problèmes après problèmes. Et toutes ces choses sont en vain. Parce que Jésus nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour vaincre dans la vie. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous exhorter à faire tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez. À être tout ce que le Seigneur veut que vous soyez. Et à recevoir tout ce que le Seigneur veut vous donner. Et être rempli de la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. Et on voit que ça commence ici, si on voit dans les versets qu'on vient de lire, que ça commence avec une révélation de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça que nous avons lu. On va le lire encore une fois. Hein? Selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enracinés, qui ne sont pas fondés dans l'amour de Jésus-Christ. Ils ne sont pas convaincus que Dieu les aime. Ils ne sont pas convaincus qu'ils sont agréables à Dieu. Ils n'ont pas compris la largeur, la profondeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas fondé dans l'amour de Dieu, vous ne pouvez jamais être rempli de la plénitude de Dieu, car Dieu est amour. Donc ça, c'est là où ça commence. Sachez que Dieu vous aime. Sachez qu'il est bon. Tout le monde dit Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu vous aime, et Dieu veut des bonnes choses pour vous. Et il faut que vous soyez convaincus de cela. Et si vous êtes convaincus de cela, on voit ici que vous serez capable d'être puissamment fortifiés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être fortifiés? Alléluia! Je suis tanné d'entendre les chrétiens dire, mais vois-tu, c'est plus fort que moi. des chrétiens face à la tentation, qui vont céder à la tentation, journée après journée, semaine après semaine, année après année. Il y a des chrétiens qui luttent avec les mêmes péchés depuis des années. Et souvent, ils vont dire, c'est plus fort que moi. Et ça, c'est un mensonge. Il n'y a rien qui est plus fort que vous, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Et plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Et la raison que vous avez de la misère à lutter et de vaincre ces choses dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas enraciné ni fondé dans l'amour de Dieu. Vous ne comprenez pas que Dieu vous aime. Peut-être dans votre tête vous comprenez, mais vous n'avez pas saisi la réalité de son amour, la profondeur de son amour pour vous. L'amour bannit la crainte. L'amour couvre une multitude des péchés. L'amour est parfait. Demandez Dieu même. Alléluia. Et ce n'est pas un petit peu non plus. Il vous aime vraiment. Et il veut que vous soyez remplis de la plénitude de lui. Verset 20, on va juste méditer ces versets un peu ce matin. Je veux prendre le temps pour que ça soit vraiment une révélation dans votre esprit. Parce que Dieu veut nous propulser. Il veut nous amener à un autre niveau d'efficacité comme individu et comme Église. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a certains uns de vous, vous êtes satisfaits avec le niveau de maturité que vous avez déjà atteint. Il y a certains uns de vous, peut-être vous n'êtes pas vraiment content, mais vous êtes convaincu que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans la vie, c'est le mieux que vous pouvez avoir. Et je suis là pour vous dire que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans la vie, c'est à peine en avant-goût de qu'est-ce que Dieu veut vous donner dans la vie. Amen. Que ça soit au niveau de votre vie spirituelle, votre vie familiale, votre carrière. Il y a quelques-uns de vous, vous avez un certain niveau de vie que vous avez toujours vécu, et vos parents ont vécu au même niveau, vos grands-parents ont vécu au même niveau. Et vous êtes convaincu que vous allez vivre comme ça, mourir comme ça, que votre postérité va vivre comme vous avez toujours vécu. Mais Dieu veut vous amener à notre niveau. Amen. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez être plus. Vous pouvez avoir plus dans la vie. Il n'y a aucune limite de ce que Dieu peut faire. En fait, verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, » Alléluia! On ne parle pas d'une petite puissance. On ne parle pas d'une pile double A. On parle de Dieu Tout-Puissant, là. C'est quelque chose quand on pense à cela. Que la puissance de Dieu agit en nous qui croyons infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent demander des grandes choses? Sachez que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une bonne imagination? Sachez que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. La clé, c'est de demander la bonne chose et d'imaginer la bonne chose. Amen. Parce que Dieu ne veut pas faire des choses folles. Il ne veut pas faire des choses juste pour faire un spectacle. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie? Il veut que vous demandiez des grandes choses et il va vous donner encore plus si vous demandez la bonne chose. Il veut que vous ayez des rêves, des visions pour votre vie, pour votre famille, pour votre carrière, pour votre ministère. Il veut que vous songiez, que vous ayez des songes et des visions, des rêves, des objectifs et il veut les dépasser. Amen. Mais il faut rêver la bonne chose. Et encore ça, c'est relié à la révélation de l'amour de Dieu. Car quand on sait jusqu'à quel point Dieu nous aime, il y a une réaction automatique. On ne peut pas avoir une révélation de l'amour de Dieu sans aimer Dieu en retour. On ne peut pas comprendre jusqu'à quel point Dieu nous aime sans aimer notre prochain. Et si j'aime Dieu, et si j'aime mon prochain, je vais toujours demander la bonne chose. Je ne serai pas en train de demander des choses égoïstes, vous êtes d'accord? Je vais toujours rêver les bonnes choses. Mes rêves ne seront pas égocentrés, mes rêves seront rempli d'amour et on va désintéresser à 100%. Je vais penser à qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour aider les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour amener d'autres personnes au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu ici sur la terre? Vous voyez, on a besoin d'être enraciné, fondé dans l'amour. On a besoin de demander les grandes choses. On a besoin d'imaginer des grandes choses. Et Dieu veut changer votre vie. Tout le monde dit, Dieu veut changer ma vie. Moi, j'ai dans mon esprit, ce matin même, je suis comme provoqué, dans un bon sens, par l'Esprit Saint, de vouloir aller de l'avant. Je veux aller de l'avant dans ma vie personnelle. Je veux connaître Dieu davantage. Je veux avoir une relation plus profonde avec mon Seigneur. Je veux être encore plus enraciné dans son amour. Et vous? Hein? Et je sais que c'est ce que Dieu veut pour moi. Pour ma famille, j'ai une vision pour ma famille, pour mes enfants. Moi, je veux élever les enfants qui aiment Dieu. Et vous? Moi, je veux élever les enfants dans le naturel qui aiment Dieu. Et je veux élever les enfants dans l'esprit qui aiment Dieu. Ça, c'est une chose, pendant qu'on était même en Californie, que j'avais vraiment dans mon cœur, dans mon esprit, que c'est le temps, on a besoin d'élever et de préparer la prochaine génération. Et c'est intéressant parce que je parlais, j'avais ça, j'avais écrit cela même dans mon petit cahier de notes que j'ai. Et je parlais avec Jean-Charles au téléphone l'autre jour parce que j'avais besoin de lui parler. Et il est allé dans une garderie et il a enseigné la musique. Et lui, la même journée, il a eu comme une révélation que ces enfants-là, parce qu'ils ont arrêté maintenant l'éducation religieuse dans les écoles, etc. Ce sont des enfants, c'est une génération-là qui vont être élevés, la plupart d'eux, sans une connaissance de Dieu. Aucune connaissance de Dieu. Les parents ne vont pas en parler, les écoles ne vont pas en parler, personne ne va en parler, à moins qu'on en parle. Amen. Mais Dieu veut qu'on soit capable de recevoir cette révélation de son amour, qu'on soit capable de demander des grandes choses, penser des grandes choses, pas juste pour nous-mêmes, mais pour notre génération, les générations qui vont suivre pour que la volonté de Dieu soit accomplie ici sur la terre. Et ça brûle dans mon cœur, ça brûle dans mon esprit. Cette église est destinée à devenir une grande église. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous aimez les petites églises, commencez à magasiner. Non, mais je dis ça pas parce qu'on ne veut pas que vous soyez là. Mais dans un sens, c'est une réalité. Parce que Dieu veut que l'Église grandisse, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. Il veut que tous viennent à la repentance, n'est-ce pas? Et dans notre ville, à Drummondville, réveillons-nous un peu. Si on met toutes les églises évangéliques ensemble, et même si on mettrait tous les catholiques pratiquants qui vont à la messe le dimanche ensemble, parce que j'ai parlé avec les gens, je sais combien de personnes fréquentent les églises le dimanche matin, c'est moins de 2% de notre population. 98% de notre population est sans église aujourd'hui à Drummondville. Ça comprend les catholiques, tout. Laisse-moi vous dire, on a presque, quoi donc, entre 80 et 100 000 personnes, dépendant quel village on va compter. On a au moins 80 000 personnes là, ici dans la région de Drummondville. On a, quoi donc, 600 chrétiens évangéliques à peu près qui se réunissent dans les églises. On a de la place, vous êtes d'accord? Donc, moi, je suis passionné pour cela. Je veux voir cette église grandir. Pas juste pour qu'on puisse dire, on a une grosse église, parce que je veux aller au ciel avec un grand nombre de personnes. Et vous? Alléluia. Mais pour qu'on puisse faire cela, c'est pas l'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre du corps de Christ. Ça va prendre la puissance de Dieu en action. Ça va prendre la fortification de tous les membres du corps de Christ. Et n'est-ce pas intéressant que Paul a prié à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Tout le monde dit, la puissance qui agit en nous. Paul n'a pas dit la puissance qui agit en moi. Je suis l'apôtre. C'est moi qui ai l'homme de Dieu, l'homme de foi. Pour l'heure, je suis le super-héros. Et aussi longtemps que tu gardes tes yeux sur moi, les choses vont bien aller. Non, il parlait ici de l'action de l'Esprit Saint. C'est une action collective. La puissance qui agit en nous. Et c'est bon que nous, en tant qu'individus, on puisse être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. On peut être individuellement fortifiés dans notre esprit par l'Esprit Saint. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on vient ensemble et quand nous avons cette révélation ensemble et quand la puissance de Dieu agit en nous. Le doigt attaché à la main, qui est attaché au bras, qui est attaché à l'épaule. Là, on a quelque chose de fort. Vous êtes d'accord? Mais pour que l'Église puisse accomplir sa mission et réaliser sa vision, il faut qu'on soit rempli de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez satisfait là où vous êtes. Il faut, à un moment donné, que il faut arriver à la place où vous dites, je suis tanné de rester en neutre. Je vais de l'avant. Amen? Combien de vous voulez aller de l'avant? Je pense à Abraham, et on va lire cela ce matin. On va prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, en Genèse, chapitre 12, c'est un homme que Dieu a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on a l'histoire d'un veilleur qui n'a pas d'enfant, mais qui a reçu une parole de Dieu, une promesse que Dieu allait faire de lui le père d'une grande nation. Et Dieu a fait cela. Et aujourd'hui, on a la nation d'Israël. Et aujourd'hui, on a aussi la famille de Dieu. Moi, je suis juif par adoption. Et vous aussi, peut-être vous ne le savez pas, mais vous êtes juif par adoption si vous êtes né de nouveau. Mais ça, c'est toute une autre leçon. Mais lisons qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ici. Et je veux que vous saisissiez l'importance et les principes de ce passage. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, mais, et continue, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est que Dieu avait un plan pour Abraham. Dieu avait un plan de prendre un homme qui était dans une culture païenne, un peuple qui ne connaissait pas Dieu, un peuple qui honorait pas Dieu. Il voulait prendre cet homme et il voulait faire de lui une grande nation. Il voulait le faire sortir de son pays. Il voulait lui montrer une nouvelle vision. Il voulait faire de lui une bénédiction et une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et grâce à l'obéissance d'Abraham, vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui. Abraham crut à Dieu. Et il était justifié grâce à sa foi. Et la Bible nous dit que nous sommes tous les enfants d'Abraham. Parce que Abraham, c'est le père de tous ceux qui croient. Amen? Et qu'est-ce que je veux qu'on voit ici? C'est qu'il y a certains principes que vous et moi, on peut suivre. De la même façon qu'Abraham a suivi ces principes, et un homme qui était dans une culture païenne, qui n'avait pas d'enfant, est devenu le père d'une multitude, une nation complète, il était béni, il est devenu la source d'une bénédiction, et même toutes les familles de la terre ont été bénies en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour faire cette transformation? Un homme normal, un homme qui vivait dans le status quo, un homme qui n'avait rien de spécial dans sa vie, avant que Dieu a fait son œuvre. Et peut-être vous voyez comme ça aujourd'hui. Mais moi, je suis comme juste normal. Je suis juste un chrétien, tout simplement. Et peut-être vous êtes content d'être dans le status quo. Mais laisse-moi vous dire que l'ennemi, la pire ennemi du meilleur, c'est le status quo. Il y a trop de chrétiens qui sont satisfaits et qui sont contents de juste planer, on pourrait dire, spirituellement. Bon, je suis sauvé, je vais aller au ciel. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont crier au secours, Seigneur au secours, le Seigneur vient au secours, mais ils ne vont jamais faire de progrès. Ils ne vont jamais accomplir le plan et la mission que Dieu les a confiée. Est-ce que vous êtes content qu'Abraham a accompli sa mission? Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre mission est aussi importante que la mission d'Abraham. Si Abraham n'aurait pas accompli le plan de Dieu pour sa vie, toutes les nations de la terre n'auraient pas été bénies en lui. Et si vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé de faire, il y a des familles qui vont souffrir à cause de votre désobéissance ou votre manque de connaissance. Amen? C'est la réalité. Mais regardons bien. Il y a plusieurs principes, trois choses qu'on va voir aujourd'hui qu'il faut faire si on veut être rempli de la plénitude de Dieu, si on veut faire pleinement la volonté de Dieu pour notre vie. Première chose, numéro un, lâchez prise de votre passé. Remarquez bien qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Dieu te regarde aujourd'hui et te dit, va-t'en. Pas va-t'en de ma présence, mais va-t'en de ton passé, de qu'est-ce que tu as vécu hier, avant-hier, ou même peut-être qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Va-t'en! Regarde ton voisin et dis va-t'en. Avec ferveur. Dis va-t'en, mais restez là. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui vont jamais faire la volonté de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont peur de lâcher prise et laisser Dieu. Ils ont peur de lâcher prise de qu'est-ce qu'ils connaissent. Hein? Mais Dieu veut que... On ne peut pas marcher sur les eaux avant de quitter la barque, vous êtes d'accord? La barque, c'est confortable. On sait qu'est-ce que c'est une barque. On sait que dans la barque, c'est la sécurité. Mais Dieu veut que vous quittiez votre zone de confort. Dieu veut que vous quittiez qu'est-ce que vous connaissez déjà pour expérimenter qu'est-ce que vous n'avez jamais vu ou jamais goûté. Amen? Combien de vous voulez avoir quelque chose de différent que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir plus de bénédictions dans votre vie? Plus de puissance dans votre vie? Vous aimeriez faire plus d'exploits dans votre vie chrétienne? Une chose qui est certaine, sûre, officielle, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et arriver là où vous allez. Amen? Vous pouvez me dire, pendant un mois de temps, je vais en vacances, je vais en Floride, oh, on va passer une belle vacance, ça va être merveilleux, on va aller faire, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous aimez faire, on va aller à la plage, on va manger, je ne sais pas quoi, on va avoir une belle vacance. Mais si vous ne quittez jamais la maison, vous restez à Drummondville, vous restez à Saint-Nicéphore ou à Victoriaville, vous n'allez pas jouir d'une belle vacance en Floride. Vous êtes d'accord? On peut dire tout au long de la journée, oh, on va faire des exploits pour Dieu. On va avoir un réveil ici à Drummondville. Dieu va faire des grandes choses. Notre église va grandir. Mais si on reste là où on est, spirituellement, émotionnellement, financièrement, on ne fera rien. Il faut qu'on lâche prise, il faut qu'on laisse Dieu. Amen? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher prise de votre zone de confort? Paul l'a dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est-à-dire que moi, je crois que la prière fervente a juste une grande efficacité, n'est-ce pas? Moi, je suis convaincu que les réunions de prière que nous faisons comme équipe pastorale, ça porte du fruit déjà. Je sais que les réunions comme ils font en Californie, hein, à 5 heures du matin, ça porte du fruit. N'est-ce pas? Mais Dieu a besoin de dire des fois, va-t'en de ton lit. Si tu restes dans ton lit, ça ne marche pas. Il faut qu'on quitte notre zone de confort des fois pour expérimenter les choses que Dieu veut nous montrer. Paul a dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut oublier ce qui est en arrière. Peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vu dans le passé, Dieu veut vous faire expérimenter des nouvelles choses. C'est une nouvelle journée, c'est un nouveau départ. Amen. Alléluia. Lâchez prise de votre passé. Changez votre façon de penser. C'est comme les éléphants. Vous savez que les éléphants, quand ils sont des bébés, ils vont les attacher avec une corde qui est liée à un morceau de béton par terre. Ils vont tirer et tirer et tirer. Ils vont essayer de s'échapper. Et finalement, ils vont dire, bon, ça vaut de tirer. J'ai mal au cou. Ils restent tranquilles. Et les éléphants n'oublient jamais, hein? Et quand un éléphant est adulte, ils sont capables de prendre une corde, juste avec un petit piquet de bois, et mettre ça dans la terre. L'éléphant voit la corde et dit, « Bon, je suis attaché, je suis lié. » Je m'en souviens. Ça n'a pas marché quand j'étais jeune, ça ne marcherait pas non plus maintenant. Je reste figé. Combien de chrétiens, ils vont voir les liens du passé? Ils vont dire, « Bon, ça n'a pas marché avant, ça ne marcherait pas non plus aujourd'hui. » Changez votre façon de penser. Lâchez prise du passé. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fait dans l'image de Jésus-Christ lui-même. Vous n'êtes pas les perdants, vous êtes les plus que vainqueurs, Jésus. Amen. Laisse-moi vous dire, et réveillez-vous maintenant, regardez-moi bien comme il faut. Je crois de tout mon cœur, sans exception, qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui ne devrait pas être en mesure de devenir un modèle et un mentor même pour quelqu'un d'autre dans le corps de Christ. Si cette église va grandir, et cette église va grandir, on a besoin des leaders. On ne peut pas avoir une pouponnière avec 1000 bébés. Vous êtes d'accord? On a besoin de quelques adultes pour changer les couches. Et Dieu veut que vous soyez prêts à changer les couches. On a besoin de votre place dans la pouponnière. Désolé, donnez le biberon. Vous avez eu le biberon assez longtemps. Donnez-le à quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais plusieurs d'entre vous, vous pensez, oui, mais je ne peux pas. Vous voyez le lien, vous êtes comme un éléphant. Ça n'a pas marché dans le passé. Oubliez le passé. Restez pas lié au passé. Sachez que vous êtes une nouvelle création. Et c'est un nouveau départ. Amen. Lâchez prise de votre passé, comme Abraham avait besoin de quitter son pays, de quitter même sa famille. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il avait besoin de changer d'environnement. N'est-ce pas? C'est comme les requins. Vous savez, on peut prendre un requin, mettre ça dans un petit aquarium, et le requin va grandir jusqu'à un certain point, et la croissance est arrêtée là, parce qu'il va juste grandir en proportion de l'espace qu'il a dans l'aquarium. On change d'aquarium, il grandit encore plus. On le met dans une piscine, il grandit encore plus. On le met dans l'océan, il va atteindre le maximum de son potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe où vous vivez, avec qui vous vivez, vous n'êtes pas en thermomètre, vous êtes en thermostat. Vous ne pouvez pas juste dire, « Ah, bon, mais il fait froid », mais vous pouvez changer la température spirituelle dans votre environnement et vous pouvez créer une atmosphère de croissance dans votre vie qui va faciliter votre développement spirituel et vous allez pouvoir être rempli de la plénitude de Dieu. Mais lâchez prise de votre passé, changez votre façon de penser et changez votre environnement pour que vous puissiez atteindre le maximum de votre potentiel. Numéro 2, recevez la vision de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Intéressant non plus, juste reculer un peu. Va-t'en de la maison de ton père. Souvent, on a les liens familiaux qui nous nuisent. n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce que tes parents ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas quel standard de vie qu'ils ont eux, mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez un nouveau père. Amen. Et votre père est riche. Amen. Vous êtes maintenant dans une famille royale. Et votre grand frère, c'est le roi de l'univers. Amen. C'est pas pire, hein? Recevez la vision de Dieu pour votre vie. Genèse 12, 14, on voit la vision. Dieu a dit que, d'aller dans le pays que je te montrerai. Et il a montré ce pays à Abraham. Et en Genèse 12, 14, c'est marqué que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme... Oh, ça, c'est pas le bon verset. Mais c'est pas grave. On va aller... Je vais le trouver là. Faute d'informatique. Genèse 12. Tout le monde dit, je veux être rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. En fait, c'est Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » À toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. On a parlé d'élever la prochaine génération. « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » Et pour nous, c'est peut-être plus facile de lire cela et de croire cela, parce que nous avons toute la Bible et on connaît la nation d'Israël aujourd'hui. On sait que Dieu a gardé sa promesse, n'est-ce pas? Mais lui, il n'avait pas la Bible entre ses mains. Quand Dieu a dit à Abraham, « Lève tes yeux et regarde. » Regarde les étoiles. Quand il a dit, « Lève tes yeux, regarde le nord, le midi, l'occident, l'orient, je te donne tout ce pays. » Lui, il ne savait pas comment ça allait se passer. Il avait besoin de croire par la foi, n'est-ce pas? Il avait besoin de croire sans voir, n'est-ce pas? Mais parce qu'il a cru, il a vu. Et je vous lance le défi aujourd'hui de lever les yeux et de voir qu'est-ce que Dieu veut vous montrer. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans votre vie qui est beaucoup, 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 beaucoup plus grand que vous pensez. Infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou même imaginer. Et arrêtez de penser que je ne suis pas digne. Ou non, ça ne marcherait pas pour moi. Ça marche pour les pasteurs. Ça marche pour les évangélistes. Mais pas pour moi. Vous êtes aussi important que n'importe quel évangéliste, n'importe quel pasteur. Laisse-moi vous dire, j'ai eu une révélation de cela cette semaine en Californie quand je suis allé à une réunion de prière. J'ai vu un petit garçon de 8 ans à 5 heures du matin en train de prier pour le monde. Je me suis dit, lui, il est aussi, c'est lui le héros. On voit les personnes qui prêchent, on voit les personnes qui font du ministère, on voit les évangélistes, les pasteurs et tous les autres. On dit, oh wow, ça c'est les grands hommes de foi, mais on ne pourrait rien faire sans les prières des saints. Amen. Et le rôle que vous avez à jouer est aussi important que le rôle que j'ai à jouer. Réveillez-vous. Dieu veut vous bénir, mais Dieu veut vous donner une vision pour votre vie. Et c'est beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Ça se peut que Dieu veut vous donner une meilleure job que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui. Vous dites, « Oh, mais moi, je n'ai pas besoin de grandes choses. » Oui, vous avez besoin de grandes choses. Savez-vous pourquoi? Parce que ça prend des sous pour envoyer les missionnaires. Alice, il donne l'avion gratuitement, hein? Dernière fois que j'ai checké, il demande toujours l'argent, je ne sais pas pourquoi. Les bibles que vous avez entre vos mains, ça coûte de l'argent pour les imprimer, n'est-ce pas? Faire vivre les ouvriers qui travaillent à temps plein, ça prend d'argent, n'est-ce pas? Laisse-moi vous dire, Dieu veut peut-être juste élargir votre vision aujourd'hui. Peut-être vous êtes content avec votre niveau de vie.
ou votre salaire, mais Dieu veut peut-être faire quelque chose de plus grand. J'ai la conviction dans mon cœur que cette église est appelée à être un dépôt de provision pour la francophonie. C'est-à-dire que nous sommes appelés à envoyer les prières, premièrement. On est appelé à envoyer les missionnaires et on est appelé à envoyer les finances pour soutenir l'œuvre de Dieu dans les pays francophones. Pour faire cela, ça va prendre les ressources, n'est-ce pas? N'est-ce pas bon de savoir que Dieu veut se servir de vous pour être la source de ces ressources? Amen? Et je sais qu'il y a plusieurs de vous, vous êtes en train de me regarder comme si je viens de Mars. Mais je ne viens pas de Mars. Même pas des États-Unis. J'ai entendu ça, je ne sais pas qui. Hein? Je viens, on pourrait dire, je suis né d'en haut. Je viens de la même place que vous. Nous sommes tous nés du même esprit. Donc, en quelque part, on a besoin d'arrêter de se voir comme, « Oh, je suis Canadien, je suis Américain, je suis Québécois, je viens d'Ontario, je suis pauvre, il est riche, et, je suis pas trop intelligent, lui, il est vraiment intelligent. » Non, on est tous les enfants de Dieu, membres de la famille royale, et Dieu veut faire des choses incroyables à travers nous. Amen. Il faut élargir votre vision. Mais pour faire cela, il faut être prêt à quitter votre zone de confort. C'est-à-dire peut-être aller suivre des études, aller à l'école, étudier davantage, ou travailler un peu plus fort, ou chercher un autre emploi peut-être même, ou être plus fidèle là où vous êtes. Travailler à votre dans l'usine comme si vous travailliez, comme si votre contremaître c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il n'a pas l'air de Jésus. Il n'agit pas comme Jésus. Laisse-moi vous dire, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Hein? Je partage mon cœur ce matin parce que Dieu veut nous changer. Et si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Laissez pas, et encore, vois-tu, tout est relié à l'amour de Dieu. Parce que plusieurs de vous, je parle de cela, et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Parce qu'avec le succès vient une responsabilité. Amen? Ça vous fait peur, la responsabilité d'étudier, la responsabilité d'être fidèle, la responsabilité de travailler fort, la responsabilité de bien gérer les ressources que Dieu nous donne. Il y a une responsabilité, mais l'amour parfait de Dieu bénit la crainte. Et plus vous aimez Dieu, plus vous aimez le monde, plus vous serez motivé pour faire cela. Dans n'importe quel domaine, soyons remplis de la plénitude de Dieu. Donc, soyons prêts à quitter le passé, lâchez prise de votre passé, recevez la vision de Dieu pour votre vie. Mais troisièmement, réclamez les bénédictions de Dieu afin de pouvoir bénir les autres. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Est-ce que Dieu sait bénir les gens? Il est pas mal bon, n'est-ce pas? Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'était vrai pour Abraham, mais c'est vrai pour l'Église de Jésus-Christ aussi, n'est-ce pas? Combien de vous croyez que l'Église est appelée à démontrer à ce monde qui est dans les ténèbres et de manifester la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu? Nous sommes les enfants d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham nous appartiennent, n'est-ce pas vrai? Lisez Galates si vous ne me croyez pas. Je n'invente pas le message ce matin. Mais si Dieu a appelé un homme à quitter son pays, à recevoir une nouvelle vision pour sa vie, à recevoir les bénédictions afin de devenir une source de bénédictions, Dieu appelle l'Église à faire la même chose. L'Église universelle, l'Église locale et vous en tant qu'individu, vous êtes appelés à être bénis. Ça, c'est biblique, n'est-ce pas? C'est à ceci que vous êtes appelés à recevoir une bénédiction. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit sous l'inspiration de l'Esprit. Tout le monde dit, je suis appelé à recevoir une bénédiction. Vous dites, oh, mais moi, je suis sauvé, ça suffit. Ça ne suffit pas. Vous êtes vraiment égoïste. Est-ce que je peux être assez direct, là? Mais c'est vrai. J'avais besoin de cette révélation il y a longtemps. Le Seigneur m'a montré. Parce que j'avais cette attitude. Oh, Seigneur, donne-moi juste assez pour que je puisse payer mes factures, etc. Et le Seigneur m'a montré que non, j'ai besoin de plus parce que j'ai besoin de donner aux autres. Si je ne reçois que ce que j'ai besoin, je ne peux pas aider les autres, n'est-ce pas? Et c'est la même chose qu'on parle émotionnellement, spirituellement. Je n'ai pas besoin juste d'assez de nourriture spirituelle pour me satisfaire. J'ai besoin d'être tellement rempli de la parole de Dieu, tellement rempli de l'Esprit de Dieu, que je déborde. Et que quand je suis dans la présence des autres, la parole sort de ma bouche, la présence de Dieu sort de ma personne, je dégage l'amour de Dieu, pas juste assez, mais plus qu'assez. Amen. Alléluia. Tout le monde dit, je suis béni pour bénir. Et il faut réclamer ces bénédictions. Éphésiens 1, 3 dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Savez-vous que vous êtes déjà bénis? Mais qu'on a besoin de réclamer ces bénédictions, de marcher dans ces bénédictions. Dieu veut vous élever. Je suis en train d'examiner la foule et voir. Je peux voir dans vos yeux souvent si vous êtes en train de saisir le message ou non. Quelques-uns, moi, je le vois. Laisse-moi vous dire, il est impossible d'avoir une révélation de ce que je dis sans être heureux. Donc, si les gens qui sont tristes ce matin, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que Dieu vous aime. Que Dieu veut vous prendre de là où vous êtes. Il veut vous transporter à une nouvelle place dans votre vie. Une place qui est plus haut, qui est plus élevée. Une place où vous serez toujours la tête, jamais la queue. Toujours béni, jamais maudit. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas des problèmes. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas des défis. Que vous n'aurez jamais l'occasion de mettre votre foi en action. Je n'ai pas dit que l'ennemi n'allait pas lutter contre cela. Que vous n'aurez jamais plus des combats spirituels. Non, non, non. Ça va de pair avec, n'est-ce pas? Quand on gagne du terrain, on repousse l'ennemi. On repousse l'ennemi. L'ennemi est au front. Quand nous sommes en arrière, il nous laisse tranquille. Parce qu'on n'est pas en menace pour lui. Mais Dieu nous aime. Il veut nous donner une nouvelle vision. Il veut nous bénir pour qu'on puisse bénir les autres. Et comme de la même façon que Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai », je vais le lire une dernière fois pour terminer. Quand il a dit ceci, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je crois de tout mon cœur que c'est un principe qui s'applique à l'Église chrétienne la vie comblée. On pourrait dans un sens même lire, « Je ferai de toi une grande église. » Amen. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras, Église chrétienne la vie comblée, une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je sais que c'est une parole qui s'applique spécifiquement à Abraham, mais le principe s'applique à nous aussi. Car nous sommes les enfants d'Abraham, et nous avons la foi d'Abraham. Et nous servons le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenez le temps, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de toi. Approchez-vous de sa parole, de sa présence, de sa personne. Lâchez prise de votre passé, recevez la vision que Dieu a pour votre vie, réclamez les bénédictions de Dieu, afin de pouvoir bénir les autres. Dieu est tellement bon. On va se lever debout ce matin. On va prier. Alléluia. Alléluia. Merci, Père Céleste. Plus haut, plus loin. Seigneur, on ne méprise pas les jours des petits commencements. Et Seigneur, je sais que tu nous demandes à aller de l'avant, de prendre les pas en avant, Seigneur. Tu veux nous donner une vision. Une vision, Seigneur, de l'idéal que tu as préparé pour nous avant la fondation du monde. Seigneur, que cette vision, ta vision, devienne notre objectif, notre cible dans la vie. Mais on sait, Seigneur, qu'on ne va pas arriver du jour au lendemain à la plénitude. C'est un processus. On ne méprise pas les jours des petits commencements, mais on refuse de finir petit. On refuse, Seigneur, de rester en neutre. Et on refuse surtout de reculer. Seigneur, on tient ferme et on prend les pas de la foi et on va de l'avant. Oh, merci Père Céleste. Montre-nous, Seigneur. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Aide-nous à voir ton amour pour nous et ton amour pour le monde, les âmes perdues de ce monde, Seigneur, qui ont besoin d'une Église qui est bénie, qui ont besoin d'une Église remplie de la plénitude de Dieu, remplie de la plénitude de ta parole, la plénitude de ton Esprit Saint. Shimano Keshahaya, Berebingo Sobaremene Sinha Kistoriama, Lingo Shabadita Sitai. Seigneur, merci au nom de Jésus. La plénitude, la plénitude, la plénitude. On veut plus, Seigneur, de ton esprit, plus de ta présence, plus de ta parole, plus de ta sagesse et de ta direction pour notre vie, Seigneur. Seigneur, ces choses ont déjà été procurées pour nous à la croix, mais on veut recevoir davantage. On veut marcher davantage dans tes bénédictions afin de pouvoir bénir, Seigneur. Béni pour bénir. Béni pour bénir. Grandir, Seigneur, pour faire grandir les autres. Apprendre, Seigneur, pour enseigner les autres. Croître, Seigneur, pour atteindre davantage. Merci, Père Céleste. Avec tous les yeux qui sont fermés ce matin, j'aimerais donner l'occasion. S'il y a quelqu'un, on va tous prier ensemble dans une minute. Et on va se consacrer à l'appel de Dieu. Son appel de grandir, son appel de quitter ce qu'on connaît déjà, de recevoir sa vision et de réclamer ses bénédictions. Mais avant de faire cela, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, je ne sais même pas si je suis enfant de Dieu ce matin. Je n'ai pas vraiment dans mon cœur l'assurance d'être sauvé de mes péchés. » Si vous êtes ici et vous n'avez pas l'assurance que vous avez une place réservée pour vous au ciel, si pour une raison quelconque, vous trouverez la mort aujourd'hui, vous n'êtes pas certain d'avoir une place réservée pour vous au ciel. Si c'est le cas, juste levez la main. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, on peut prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus ce matin? Alléluia. Merci Père Céleste. Sinon, je crois que nous sommes probablement tous les croyants ici dans cette salle. Et l'appel de Dieu est lancé. L'invitation de l'Esprit est lancée. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de qu'est-ce que tu connais déjà. Va-t'en de ton zone de confort. Reçois ma vision. Réclame mes bénédictions. Car je veux faire de toi une source de bénédictions pour les nations de la terre. Je veux faire de toi une source de bénédiction pour les nations de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Seigneur, c'est notre désir ce matin, en tant qu'Église, en tant qu'individu, que tu puisses faire de nous un dépôt de ressources, Seigneur, pour ton Église, pour surtout les pays francophones, Seigneur. On croit de tout notre cœur que c'est ta vision, c'est ton plan, c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. au nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Prie avec moi, Père Céleste. Je t'aime de tout mon cœur. Donne-moi une révélation de ton amour, la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur de ton amour qui surpasse toute connaissance. Que je sois enraciné et fondé dans ton amour. Je sais que tu m'aimes et ton amour est dans mon cœur. Je t'aime et j'aime ce monde, Seigneur. J'aime toutes les familles de la terre. J'aime toutes les nations de la terre qui ont besoin de toi. C'est pourquoi je vais demander des grandes choses pour ma vie, pour mon Église. Je vais imaginer des grandes choses pour ma vie et pour mon Église. Aide-moi à quitter mon zone de confort. Donne-moi la vision de qu'est-ce que tu as préparé pour moi avant la fondation du monde. Aide-moi à réclamer par la foi les bénédictions qui m'appartiennent, les bénédictions spirituelles, les bénédictions naturelles, car tu veux me bénir pour faire de moi une source de bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur que notre Église est une grande Église avec un grand cœur, avec un grand mandat pour prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Jésus. Amen. Amen. On va juste finir avec un chant ce matin.